Bonsoir, c'est un sujet qui nous interpelle quotidiennement. Comment faire plus simple dans notre vie? Oui, il y a beaucoup trop de complexité actuellement. Est-ce qu'on n'avait pas marre de cette complexification des process, l'évolution des métiers, l'explosion des data, l'émergence sans cesse de nouvelles technologies? Oui, on a besoin d'une stratégie claire, lisible, simple. Et tous les chefs d'entreprise vous le diront, bien entendu. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait le ménage? Quel chemin suivre, justement? Est-ce que c'est si compliqué de faire simple? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, c'est un sujet dans l'actualité de tous les jours. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la complexité? Ici, on vous en parle, puisque ce sera au cœur des rencontres de l'UDECAM, l'Union des agences médias, ce jeudi matin à Paris, à la salle Pleyel. Comment rendre de la simplicité? Que veulent les annonceurs, notamment dans leur relation avec leurs prestataires? Mais on va élargir, justement, puisque je vous parlais de ce besoin des chefs d'entreprise d'avoir une stratégie claire, lisible, simple. On va en parler notamment avec Raphaël Dandréis, le président de l'UDECAM, qui est aussi le président de Havas Village France. Hubert Blanquefort, le président du Club des Annonceurs, et accessoirement, il vient comme Club des Annonceurs. Il est directeur digital et innovation chez EDF. Agnès Alazard, la directrice générale de auféminin.com. Emmanuel Lechypre, il a absolument voulu venir ce soir plancher sur la simplicité. C'est quasiment un thème philosophique, Emmanuel. Et puis Pierre Calmar, qui est le président de High Prospect, l'agence digitale du groupe de communication Dentsu Aegis Network. Alors, Raphaël Dandréis, c'est vous qui organisez ces rencontres de l'UDECAM. C'est au président de l'UDECAM, c'est aussi à l'homme, au chef d'entreprise que vous êtes. Avant, c'était simple. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Pourquoi c'est devenu compliqué?
Je vous prends un exemple très simple, Fabrice. Là, par exemple, il y a des gens qui nous écoutent dans leur voiture.
Oui.
Il y en a d'autres qui nous regardent à la télévision.
Qu'ils soient partout, qu'ils soient à Paris, dans l'Aveyron, n'importe où.
À Paris, dans l'Aveyron, par exemple, effectivement. Mmh. Il y en a qui nous écoutent donc dans leur voiture. Il y en a qui nous regardent sur leur portable, sur leur tablette. Il y en a qui nous regardent en direct. D'autres nous écouteront, nous regarderont demain en différé ou en podcast. Donc, vous avez là, très concrètement, un exemple d'au moins 6 ou 7
multiplicité des supports.
Configuration de multiplicité des supports. Et à chaque fois que vous avez... C'est pour le consommateur, tout ça, c'est très simple. Lui, au contraire, ça n'a jamais été aussi simple pour entrer dans sa vie. Mais imaginez derrière ce que ça veut dire pour votre entreprise, pour organiser tout ça, techniquement. Et ce que ça veut dire pour les annonceurs et a fortiori pour les agences médias qui sommes les intermédiaires pour mettre de la publicité, comme... configuration, moment, audience différente. Et tout ça est d'une complexité infinie, tant mieux pour le consommateur, mais ça veut dire qu'on n'a jamais eu autant besoin d'une agence média pour orchestrer ça.
En même temps, on s'intéressera aussi sur que demande le client, que demande le consommateur. Est-ce que lui aussi, parfois, il n'a pas envie un petit peu de simplification? On verra, on se mettra aussi à sa place. Un moment.
Absolument.
Hubert Blanquefort, le club des annonceurs, justement.
Moi, je rebondis sur ce que dit Raphaël. La réalité, c'est que, pour le coup, pour mettre ça en musique... Et puis pour que les marques soient là pour apporter de la valeur aux clients finaux dont vous parliez, les consommateurs, on a besoin d'articuler, d'avoir des messages qui ont besoin d'être distribués de façon efficace dans ces différents canaux. Et c'est vrai que ça demande des organisations différentes à l'interne. Il faut aller beaucoup plus vite. Sur Twitter, il faut quand même pouvoir répondre. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, les salariés peuvent être les meilleurs ambassadeurs. Dans les call centers, on va répondre aussi sur les réseaux sociaux. Tout ça demande... Pour rebondir encore une fois sur ce très bon exemple, on a besoin, à un moment ou à un autre, de trouver des process qui nous permettent d'accélérer la diffusion et de démultiplier de façon cohérente sur des canaux qui se sont beaucoup complexifiés.
Et au-delà de votre métier, justement, tiens, Agnès Alazard, directrice générale d'auféminin.com, on nous disait, on nous expliquait à une époque, le digital, vous allez voir le numérique, ça va nous simplifier la vie. Quelque part, tous les jours, il y a une nouvelle invention. Tous les jours, il y a une innovation, quelque part. Est-ce que c'est toujours synonyme de simplicité à vos yeux?
Je crois que la simplicité, c'est surtout d'être dans sa vérité. Je dirais que pour nous, c'est en fait une obsession parce que la simplicité, ça veut dire que les gens, les utilisateurs qui arrivent sur nos plateformes, ils s'y sentent bien. Ça veut dire que notre promesse, elle doit être simple, clair. Ça veut dire qu'une femme qui arrive sur Au Féminin, il faut qu'elle se sente écoutée, comprise. Si elle pose une question, il faut qu'on lui réponde. Ça veut dire qu'on peut pas traiter tous les sujets, mais que les choix qu'on fait, on doit les faire, on doit bien les expliquer et on doit réussir le pari de bien les faire comprendre. Si ce soir, en rentrant chez vous, vous cherchez la recette d'un soufflé au fromage pour votre dîner sur Marmiton, il faut que vous trouviez la recette en un clic avec les meilleurs commentaires. Et là, votre expérience chez nous, elle est réussie. On a 600 millions de pages, donc c'est d'une complexité énorme. Je pense qu'il ne faut pas chercher à lutter contre cette complexité. Elle est là. Elle nous apporte aussi énormément. Il faut juste essayer d'agir avec simplicité pour se faire comprendre.
Et on verra justement quel chemin suivre, quels sont les outils. Emmanuel Le Chip, quels sont les principaux freins aujourd'hui à la simplification? Où sont les blocages exactement? Et au-delà justement de ces métiers que sont les annonceurs, les agences médias, les portails donc?
La communication, les agences médias, elles sont dans un monde et elles sont pas imperméables aux évolutions du monde. Et ce qu'on voit, ce que vous avez dit, est vrai pour quasiment tout.
C'est pour ça.
Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui? C'est qu'on est d'abord dans un monde qui est beaucoup plus technologique. Donc vous êtes dans un monde qui est effectivement plus délicat, plus compliqué sur le plan technologique. Vous êtes dans un monde qui est aussi plus sécuritaire. Hein, c'est dans un monde dans lequel on veut en permanence être de plus en plus protégé et dans lequel finalement la liberté devient une idée qui séduit de plus en plus, mais qu'on a presque... Je suis pas sûr qu'on ait tant envie que ça de la vivre au quotidien, parce que la liberté, c'est le risque. On est dans un monde qui est de plus en plus rapide aussi. On est dans un monde qui est de plus en plus transparent. Il y a une exigence de transparence aujourd'hui sur tout, c'est-à-dire que ce qui relève du finalement de l'opacité, ce qui relève et là ça pose une question sur les limites de la vie privée, etc. Je vous renvoie à l'excellent livre de notre ami Olivier Babot qui s'appelle Éloge de l'hypocrisie, en disant que finalement il y a un moment où on peut pas être transparent sur tout et nickel sur tout parce qu'on est que des animaux au final.
Invité de la librairie de l'Écho.
Et il faut qu'on ait des moments de liberté. On est surtout dans un monde qui est aussi plus individualisé. C'est-à-dire que quand vous faisiez de la communication pour des masses, c'était simple, hein, quand vous aviez un consommateur moyen. Et ben aujourd'hui, vous avez un consommateur qui n'est plus la même chose qu'un autre consommateur. Et puis, parce que dans ce monde qui change, c'est ce que j'appelle un monde, moi aussi, sédimentaire. C'est-à-dire que pour s'adapter à toutes ces nouvelles donnes, à tous les changements du monde, à chaque fois, on a des réglementations, des lois, des règles du jeu qui ne se remplacent pas les unes les autres, mais qui se sédimentent et qui s'empilent et qui se superposent. Ce qui fait que vous conjuguez à la fois une exigence de souplesse et de flexibilité beaucoup plus grande avec des outils de plus en plus compliqués à manier, avec en plus un consommateur qui est devenu infernal, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que vous aviez un consommateur docile. Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça dans un manuel de marketing, alors vous devez connaître tout ça par cœur. Ouais, et notre consommateur, c'était la règle de ce qu'on appelait les 5P. Vous connaissez par cœur ça, la règle des 5P. Le consommateur, il était soumis à la patrie, au prêtre, au parti, au patron et à son père. Voilà. Aujourd'hui, votre consommateur... C'est ce qu'on appelle les 5 I. Hein, votre consommateur capricieux, il est impatient, il est intransigeant, il est insatisfait, il est infidèle et il est immodeste. Voilà. Donc, quand il faut vous coltiner tout ça, c'est quand même aujourd'hui extrêmement complexe.
Agnès Salazar, au Féminin.
Il a le pouvoir parce qu'il a le pouvoir de publier, c'est-à-dire que pour la première fois, les consommateurs, ils peuvent publier des avis qui sont disponibles sur Internet et auxquels tout le monde peut se référer. Donc finalement, c'est quand même une bonne chose de se dire que le consommateur n'est pas cet être un petit peu lointain à qui on envoyait des messages, mais en fait c'est une personne comme vous et moi qui reçoit ces messages, et si elle est pas contente, eh ben elle peut le dire, et si elle est contente, elle le dit aussi.
Oui, mais sauf que l'avis d'un seul vaut autant que l'avis de beaucoup. Et ça, c'est quand même
une nouveauté.
Une nouveauté. Et là encore, on peut plus les ranger dans des cases. Moi, je me rappelle, j'ai commencé ma carrière d'économètre statisticien dans une agence où, vous savez, c'était l'époque où on essayait d'identifier dans les rues, immeuble par immeuble, les caractéristiques sociologiques. Le nom m'échappe de la société qui avait lancé ça. Et donc, par exemple, ça voulait dire dans tel immeuble, eh ben, on sait qu'il y a beaucoup de parents avec des bébés, donc on va inonder les boîtes aux lettres de publicité sur les couches culottes. Et donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est plus de trouver des cases de plus en plus fines dans lesquelles ranger votre consommateur, c'est d'essayer de comprendre chaque petite case, chaque petit morceau dont est fait votre consommateur. C'est-à-dire que quand demain vous lui proposez 200 produits, L'idée, c'est plus que y ait quelques produits qui l'intéressent dans les dans la dans les 200 produits, c'est que potentiellement ils soient intéressés par les 200 produits.
Ouais, partout. Pierre Calmar. iProspect.
Bah justement, je crois que c'est un peu le cœur du débat. D'un côté, on dit il y a trop de publicité ou je veux qu'on respecte ma vie privée. Et de l'autre côté, tout le système médiatique, il faut le reconnaître, tous les médias n'existent que par la publicité. Vous supprimez la publicité demain en France, très simple, il n'y a quasiment plus que 3 ou 4 médias au lieu d'en avoir plusieurs milliers. Donc très clairement...
Personne ne veut la supprimer là pour l'instant.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit le consommateur finalement n'est pas très à l'aise avec l'idée d'être ciblé d'un point de vue publicitaire, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, il n'est pas prêt non plus à payer l'ensemble des contenus qu'il trouve gratuitement quand même sur les plateformes digitales, ou en tout cas des prix extrêmement dégradés, y compris d'ailleurs sur les médias traditionnels. Mais d'autre part, et là les enfants et les adolescents sont vraiment des laboratoires d'expérience extrêmement intéressants, c'est qu'à partir du moment où ils ont bien compris ça, parce que de fait, le consommateur est intelligent, il comprend le monde dans lequel il vit, eh bien il préfère largement avoir une publicité qui lui ressemble. Typiquement, si vous avez un gamin de 18 ans, il préfère avoir la dernière paire, je ne vais pas citer de marque, mais de chaussures à la mode ou son dernier film favori en bande-annonce, plutôt que des couches-culottes dont à cet instant-là qu'il n'a que faire. Et donc on a une vraie logique où le consommateur, moi je fais le pari que le consommateur, malgré les problématiques de vie privée, qu'il ne faut pas nier, va de plus en plus développer une appétence pour de la publicité qui soit le plus ciblée possible, dès lors qu'elle n'est pas trop intrusive et que son contenu est intéressant et pertinent pour lui.
Hubert Blanquefort, le club des annonceurs.
Oui, enfin je rebondis là-dessus. C'est vrai que la réalité, c'est qu'on n'est plus dans le séquentiel. Donc on a plus un message qui est délivré avec un consommateur qui l'accepte ou qui ne l'accepte pas, et qui achète ou qui n'achète pas le produit. Aujourd'hui, en effet, il peut réagir, il peut commenter et il a finalement la capacité de remettre en question le discours marketing des marques. On arrive au bout du système du marketing des années 90, 2000, où on a dans un rayon de supermarché à peu près 150 références de jus de fruits pour de l'orange. On arrive au bout de ce système-là aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que les gens disent « mais moi, j'y comprends plus rien. Quelle est la marque à laquelle il faut que je fasse confiance ? Qui je crois ?» dans les messages qui me sont adressés. Est-ce que j'ai intérêt à croire ma voisine, même si je ne la connais pas, mais qui ressemble sociologiquement à ce que je suis, etc. etc. C'est cet échange et c'est cette tension qu'on vit aujourd'hui, mais qui, à mon avis, est aussi porteuse d'espoir, d'une certaine manière, et de réalité nouvelle pour les annonceurs.
Mais pour vous, c'est plus simple ou plus complexe à faire, justement, pour répondre à cette exigence de ce consommateur au sein irascible, impatient, je ne sais quoi encore?
C'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Ah bah voilà.
Parce que ça demande un certain nombre de choses. Et pour autant, ça veut pas forcément qu'on reste, on va dire, assis dans notre chaise, à rien faire. On est aussi en train d'embrasser, on va dire, cette évolution. Et donc, on s'adapte, on évolue, on propose des nouveaux dispositifs qui sont là aussi pour accompagner ce changement.
Les entreprises, elles sont organisées pour ça, vous avez l'impression, Raphaël de Andréis?
Moi, nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que dans ce monde qui se complexifie, si on veut revenir à une forme de bon sens et de simplicité, il faut que chacun soit le meilleur dans son métier. Et donc aujourd'hui, il y a deux discours qui se croisent, je ne sais pas s'ils s'opposent. Il y a des gens qui disent « tout le monde va faire un peu tout ». Les annonceurs font le métier des médias, des agences médias pourquoi pas, les médias des métiers des agences médias, on s'est compris, et pourquoi pas les agences devenir quasiment créer des produits aussi. Moi je crois pas à ça. Moi je crois qu'aujourd'hui plus c'est compliqué, plus il faut qu'il y ait des geeks et des gens extrêmement spécialisés. Moi je pense que je prends le cas d'EDF. EDF c'est un métier. Produire de l'énergie, c'est très compliqué. Donc, produire de l'énergie, connaître le consommateur de l'énergie, connaître son univers, développer des solutions extrêmement sophistiquées, entretenir des centrales, c'est très compliqué. Donc voilà, ça c'est un métier. Il y a un métier qui est le métier d'agence média, qui est un autre métier, et qui est en gros concentré sur la compréhension des points de contact des consommateurs, qui d'ailleurs ne sont pas que des consommateurs d'électricité, ce sont des consommateurs d'électricité, ce sont des gens qui conduisent des voitures, qui achètent des yaourts ou des souffles au fromage. Et donc, à partir de, pour rebondir, pour ceux qui prennent le truc en route, pour la question, je vais rebondir sur ce que disait Agnès tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, ce qui est très important, je crois, c'est que dans cette complexification, en termes de management, c'est chacun doit redevenir le meilleur de son métier. Et donc, moi, je pense qu'on va plutôt vers un monde qui se respécialise, plutôt qu'un monde qui ceux où tout le monde fait tout. C'est en tout cas moi ce que j'observe en discutant avec mes clients.
Oui, les entreprises qui vont rechercher de la simplicité, c'est justement ça, Pierre Calmar. Alors, être le meilleur, spécialisé.
Mais je constate aussi qu'il y a un mouvement que je trouve assez extraordinaire et qui finalement vient un peu de la nuit des temps et qui revient totalement à la mode, qui est l'intelligence collaborative. Si Homo sapiens a dominé cette planète, c'est pas parce qu'il était plus intelligent que les autres espèces d'homo de l'époque, c'est parce qu'il avait une intelligence collaborative bien supérieure aux autres espèces. Et aujourd'hui, de par justement ce que disait Raphaël, la complexification et la nécessaire spécialisation des métiers, on a besoin d'autant plus d'avoir une vraie logique de collaboration. Et cette collaboration, elle est très vraie dans les agences, où on essaie d'avoir effectivement des équipes extrêmement collaboratives, et où je dirais même, pour donner un insight personnel, dans les recrutements que l'on fait chez Dentsu aujourd'hui, moi je vais choisir des gens presque avant leur savoir-faire, on va dire technique, des gens capables de travailler en équipe. Et ce savoir-faire, cette collaboration, elle s'étend évidemment aux médias avec lesquels on travaille, les clients annonceurs avec lesquels on travaille, dans une logique de partenariat. Et donc on n'a plus du tout cette relation, on va dire client-fournisseur qu'on a pu connaître au XXe siècle. On a vraiment une relation, on va co-construire et on va justement arriver à décoder, ça tombe bien, c'est le titre de l'émission, un monde effectivement de plus en plus complexe et on ne pourra le faire qu'ensemble avec autour de la table des différentes spécialités.
Dans le processus industriel, c'est pareil, Emmanuel Lechypre, dans ce qu'on appelle l'usine du futur, on a des très grandes compétences, de grands spécialistes, avant qu'ils ne rentraient pas en conversation avec les autres. Maintenant, aujourd'hui, l'usine du futur, elle fait en sorte que tout ce petit monde interagisse. Et ça, c'est vecteur de simplicité à vos yeux ?
Alors, c'est vecteur d'agilité. Parce que c'est sûr qu'effectivement, la vraie révolution industrielle, c'est pas la complexification extrême des robots. Hein, les robots dans les usines, ils sont là depuis très longtemps. C'est vrai que la vraie nouveauté, c'est l'interconnexion. C'est la connexion des objets, c'est la capacité à effectivement détecter tout un tas de mouvements et à prendre tout un tas de décisions sans qu'il y ait aucune intervention de l'homme à aucun moment. Et quand on voit après la complexité que ça peut prendre, alors avec au final une simplification très grande du quotidien, si vous transposez ça à une famille où effectivement quand vous aurez mangé votre dernier yaourt aux fraises le matin, vous rentrerez chez vous le soir sans avoir rien fait et vous aurez à nouveau le frigo rempli des yaourts dont vous ne pouvez pas vous passer parce que vous aurez un signal qui a été envoyé par le frigo, parce que vous aurez une intelligence artificielle qui aura payé à votre place sans que vous le soyez, d'où l'intérêt d'ailleurs des monnaies, des crypto-monnaies, etc., et qu'il y a un livreur, paf, tac, 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 vous voyez, on rentre dans un autre style de vie. Donc la complexité, elle sera technologique, mais la simplification de l'usage, on rentre dans une société qui est vraiment une société de l'usage. Hein, le consommateur va l'emporter sur l'ingénieur, finalement, sur le plan sociétal.
Oui, ce que vous dites, c'est un très bel exemple, parce que finalement, faire simple, c'est pas forcément revenir en arrière. Hein, on va pas rayer toute forme de progrès.
Alors, ça dépend sur quel sujet. C'est ça le. Alors, c'est qu'encore une fois, votre consommateur, il est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'avant, il y a 40 ans, un type qui mangeait dans un 3 étoiles le soir, jamais il aurait payé les pieds dans un bistrot le midi pour manger un jambon beurre. Et ben aujourd'hui, si, il le fait. Et les gens sont multiples comme ça. Mais et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué d'identifier des profils types. L'homme est de plus en plus multidimensionnel dans ses multiples vies, multiples activités. Donc là encore, c'est une complexité supplémentaire.
Et tout le principe, peut-être, Pierre Calmar, c'est de fournir une réponse unique pour chacun, et pas
exactement
en même temps.
Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de cibler en fait les individus. Le ciblage, évidemment, il a des fins mercantiles, mais en fait la réalité, il fonctionne parce qu'il apporte un service à chacun. Et à partir du moment où chacun se sent finalement libéré d'un certain temps, qu'il va gagner du temps, qu'il va gagner en efficacité, qu'il va être de plus en plus pertinent dans le monde dans lequel il vit, eh bien, il va évidemment utiliser très largement l'ensemble de ces technologies. Alors là aussi, c'est assez amusant, puisqu'il y a de grands paradoxes qui sont en train de naître. Typiquement, toute la peur de Google, Facebook, Amazon,
les
algorithmes en général. C'est-à-dire, tout le monde dit, oulala, c'est extrêmement dangereux, je donne finalement ma vie privée. Sauf que je connais assez peu de personnes qui vont être capables de dire « moi j'arrête tout ça ». Parce que la réalité, c'est que ça apporte tellement d'ouverture sur le monde et tellement de services, et le service devient tellement pertinent qu'on est dans un monde qui va muter de fait et indubitablement vers cet avenir-là.
Oui, parce que je reprends les... Non, je suis pas d'accord. On peut pas se satisfaire de cette vision, alors que je qualifie de de fataliste presque au sens voilà, le monde de demain il... parce que la question qu'on peut se poser effectivement quand vous dites ça on se dit bah finalement le monde de demain ça peut être soit un paradis parce que on aura tous à notre disposition des tas de technologies qui nous finalement qui nous empêcheront d'avoir encore à faire toutes les choses fastidieuses et compliquées et ça c'est super ou bien on va rentrer dans un monde où on sera devenus les esclaves des robots privés de liberté etc. Moi je pense que le monde de demain c'est le monde c'est surtout ce qu'on en fera et je pense que là pour le coup on peut garder les avantages de ce que vous dites mais qu'il faudra être capable d'inventer les règles du jeu, les réglementations qui font que bah on sera pas quand même totalement dépendant de ces outils là quoi.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Ce que je dis simplement c'est que pour moi il est inéluctable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie de retour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette technologie existe, c'est l'écosystème dans lequel on vit. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le réguler. Bien entendu, il faut le réguler. Et je vais même vous dire quelque chose. Je suis persuadé que la régulation, elle se fera demain par des intelligences artificielles et même plus par l'être humain lui-même. Ce qui pose d'ailleurs d'autres questions philosophiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas nier le fait que c'est le monde dans lequel nos enfants, nos petits-enfants vont vivre de plus en plus. Et que donc, on n'aura pas ce retour en arrière possible en considérant on va dire rétrospectivement ce qui est bien ou mal. D'ailleurs, c'est toute l'histoire finalement de l'humanité, par-delà le bien et le mal, si je peux citer Nietzsche. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est de dire l'être humain a inventé un monde, continue de l'inventer. La technique va parfois plus vite que lui, et c'est à lui de s'adapter en permanence au monde qu'il crée. Voilà, c'est ça le nouveau paradigme.
Agnès Salazar au féminin.com.
Oui, je suis d'accord. Je pense néanmoins que on n'est pas que un identifiant d'ordinateur, en fait. Hein. Il faut quand même se réaliser aussi qu'il y a toute la part émotionnelle qui nous conduit à avoir des actions, qui nous conduit à faire des achats. Je vais vous raconter en quelques minutes comment on s'est lancé dans l'e-commerce. Pas du tout avec les standards d'Amazon, néanmoins avec une idée qui était que quand on voit le jour de Mardi Gras que la moitié des petites filles dans la rue sont déguisées en licorne, et ben en fait quand elles grandissent, elles ont aussi envie d'avoir le maquillage de licorne. Donc on lance des produits qui sont des box dans lesquels on trouve des produits beauté qui vous permettent d'avoir le maquillage d'une licorne. Et ben en fait les filles achètent parce qu'en fait la proposition elle est assez simple, c'est qu'on leur propose du rêve, on leur propose le maquillage des mille et une nuits, on leur propose un maquillage de sirène, etc. Donc tout un imaginaire, en fait, tout un monde qui fait que ça déclenche en fait un acte d'achat et qui n'est absolument pas conditionné par une analyse a priori d'un profil de votre capacité à acheter. Donc je pense que évidemment en fait le monde se complexifie et en fait c'est autant d'opportunités toutes ces technologies qui permettent non seulement d'améliorer la performance publicitaire, mais aussi l'expérience des utilisateurs. Quand on s'inscrit pour tester des produits de beauté et qu'on renseigne son profil en expliquant qu'on a les cheveux frisés, eh ben, on a envie de recevoir un produit pour les cheveux frisés. On n'a pas envie de recevoir une crème contre la peau sèche.
Ouais, maintenant, je reprends l'exemple. La technique, elle est là, bien entendu. L'exemple d'Emmanuel Le Chip qui nous disait, voilà, il part le matin, il n'y a plus de yaourt dans le frigo, il revient le soir, il y a des yaourts qui sont arrivés parce qu'en effet, il y a eu des capteurs, etc., etc. Cette simplicité à laquelle on aspire tous, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment que ça se transforme en simplisme quelque part? On va nous imposer une marque de yaourt, Google Maps va nous imposer un trajet particulier. Faire simple, c'est pas faire simpliste. Est-ce que simplicité doit se confondre avec uniformisation? Est-ce que c'est la mort de la diversité aussi? C'est un risque ou pas, Raphaël Dandréis?
Alors, c'est un risque sur des sujets comme la diversité culturelle. Si vous avez sans arrêt des algorithmes qui vous reproduisent, si vous avez acheté un livre, voilà, un thriller historique qui se passe à Venise, et si le coup d'après, on vous propose un thriller historique qui se passe au Vatican, bah, peut-être que vous aviez envie de lire un essai de Deleuze à ce moment-là. Enfin, je veux dire. Donc, c'est pour ça que les libraires français résistent si bien aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que plus, et d'ailleurs, j'en reviens au métier d'agence média, plus c'est compliqué, plus on a besoin d'humains. Moi, je sais qu'il y a eu un fantasme dans nos métiers consistant à dire maintenant tout ça est automatique, donc on aura besoin de moins de gens. Et en fait, ce qu'on découvre, d'ailleurs, c'est exigeant en termes de gestion pour une entreprise comme la nôtre, c'est qu'en fait, si vous avez un bon trader de campagne, eh ben vous optimisez et c'est de mieux en mieux. Si tout d'un coup vous avez un junior qui est tout nouveau, qui a le même outil, eh ben les résultats seront beaucoup moins performants. Il a les mêmes outils, il a le même algorithme. Donc aujourd'hui, moi, mon hypothèse, c'est qu'on est plus sur une logique de comment l'homme, finalement, réussit sans arrêt à garder le dessus. Parce que, essayez de faire, l'autre jour, essayez de demander à Siri de vous faire une blague. Ben, c'est pas drôle. Mais c'est rien contre Siri. C'est à un moment donné, l'humour, la subtilité, le regard de biais, iconoclaste, la morale. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc moi, je pense que pour l'instant, en tout cas, si on fait une photo, plus la technologie rentre dans nos entreprises, plus on a besoin d'humains. Et donc, il me semble qu'en tout cas, les agences médias sont loin d'être automatisables.
Hubert Blanquefort.
Nous, enfin, les annonceurs n'ont pas vocation de toute façon à tout intégrer. Ils n'ont pas la possibilité de le faire. Est-ce qu'on peut intégrer un service étude? Oui. Est-ce qu'on peut intégrer, on va dire, un certain nombre d'éléments de process dans la fabrication de campagne? Sans doute. Il y a quand même des choses aujourd'hui qui ne sont pas intégrables. Et d'ailleurs, ça serait un vœu pieux que de se dire, finalement, c'est toujours les mêmes personnes qui vont réfléchir à la stratégie de la marque et à la façon dont on va la rendre créative pour qu'elle soit effectivement la plus sexy pour les consommateurs. Ça, si on intègre ça, ben on perd totalement, on va dire, au bout de trois fois, cette espèce de magie de la création. Donc on a absolument besoin des agences pour nous accompagner sur des dimensions stratégiques, évidemment, et sur la partie créative. Et entre les deux, on a besoin d'accompagnement, de conseils dans ce monde qui se complexifie. Et d'ailleurs, on s'aperçoit aussi avec les agences que parfois, on est au même niveau qu'eux sur un certain nombre de points. C'est donc, pour le coup, c'est vraiment du collaboratif. On se dit, moi, je suis pas d'accord là-dessus. On a testé ça dans une autre campagne, on l'a vu, etc., etc. On a besoin de faire évoluer le modèle. Et les agents, d'ailleurs, sont plutôt à l'écoute. Elles disent, oui, c'est vrai. Et on avance sur autre chose.
Les algorithmes, c'est pas la mort de la diversité, vous nous le dites, ou pas, Pierre Kelmer?
C'est pas du tout la mort de la diversité. Ouais, je prends un exemple tout bête, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser, de se dire, oui, mais puisque tout le monde utilise les mêmes algorithmes, les mêmes outils, sont finalement ciblés par les mêmes choses, tout le monde doit faire la même chose, et voilà. Je pense aussi que c'est une vision d'occidentale riche, que je pense 90% de la planète ne partage pas. Si je prends l'histoire par exemple de Julius Yego, qui est le champion du monde quand même de javelot, c'est un Kenyan qui a appris à lancer son javelot parce qu'il a vu des vidéos sur YouTube et qu'il a pu s'entraîner et a aimé ce sport. Il est devenu champion du monde et vice-champion olympique. C'est une histoire formidable. Et c'est une histoire formidable parce que justement, il y a des milliards d'individus sur cette planète qui ont accès pour la première fois à une ouverture sur le monde. Et ça, pour le coup, c'est un vrai facteur de diversité. Et ça, fondamentalement, ça change évidemment le regard que l'être humain pose aussi sur lui-même. Et pour revenir sur ce que dit Raphaël, je suis 100% d'accord. On a besoin plus que jamais d'être humain, d'émotion, pour une raison en fait simple, à mon sens. Et c'est pas moi qui ai inventé ce concept, mais c'est le concept du découplage. Le découplage entre l'intelligence et la conscience. Pendant des lustres, on a pensé que la conscience, que le fait que l'être humain soit conscient, était le moteur de l'intelligence. Et plus on était conscient, contrairement aux chiens ou aux fourmis, et plus on allait développer d'intelligence pratique. En fait, on est en train de démontrer aujourd'hui l'inverse, c'est-à-dire que l'intelligence, au sens purement rationnel du terme, peut être bien supérieure à celle de l'être humain, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'énorme nuance, c'est cette intelligence artificielle-là, n'engendre pas, en tout cas aujourd'hui, de conscience. Et quelque part, dans nos métiers, c'est bien de conscience dont on parle. L'exemple que tu prends sur le trader, justement, qui apprend son métier et qui a ce côté émotionnel, qui a ce savoir-faire, qui a aussi ce côté éthique, c'est-à-dire est-ce qu'il est éthique d'aller cibler, finalement, utiliser telle ou telle data, etc. Ça, aujourd'hui, c'est une histoire de conscience que, pour l'instant, les algorithmes sont très très loin d'avoir engendré.
Un mot, Emmanuel Le
Chip, Spinoza.
Alors remarquable. Répétez, Raphaël, vous avez entendu?
Non, je dis après Nietzsche, Spinoza. Je vois que les agences médias sont très haut niveau et je m'en réjouis.
Sur Deleuze.
Voilà. Et non, mais c'est vrai que si vous faites la passe après Spinoza, si vous regardez par exemple les travaux d'Antonio Damasio, qui est un très grand neuropsychiatre,
ça va mal finir, c'est très
bien, etc. Il vous dit exactement la même chose, c'est-à-dire que l'organisation, etc., même des cellules qui n'ont pas de cerveau sont capables de s'organiser socialement, et que ce qui fait notre spécificité, effectivement, c'est cette conscience. Mais sauf que cette conscience, elle n'est pas que le produit du cerveau, et elle est le produit effectivement de notre cerveau, mais aussi de ce qui est intimement vivant en nous. C'est pour ça que on peut avoir des doutes sur la capacité de l'intelligence artificielle à reproduire. Vous pouvez toujours faire pleurer une machine, vous saurez jamais si c'est des larmes de joie ou si c'est des larmes de tristesse. Et pour reprendre l'exemple que vous citez sur notre Kenyan, c'est exactement le risque qui nous menace. Est-ce que ce sera l'enfer ou le paradis? Quand je vous dis que ce sera ce qu'on en fera, on voit bien ce qu'on peut en faire quand c'est très bien fait. On voit aussi ce que ça peut être comme en faire. Quand vous regardez un film comme Wall-E, par exemple, vous avez une bande d'humains qui sont finalement tous ramollos, qui se déplacent dans des petits vaisseaux. Ou quand vous lisez même La planète des singes de Pierre Boulle. La planète des singes, en fait, souvent dans les vieux films, on comprend pas pourquoi les singes ont pris le pouvoir. Et quand vous regardez, en fait, les raisons pour lesquelles les singes ont pris le pouvoir, c'est la paresse des humains. C'est-à-dire qu'à un moment, l'humain, il se pose plus de questions. J'ai des yaourts dans mon frigo, ils arrivent là tout seuls, comme ça. Et à partir du moment où l'humain devient paresseux, ne se pose plus de questions et qu'il laisse finalement petit à petit le pouvoir à ce qui était au départ des serviteurs ou des gens qui étaient là entre guillemets pour lui faciliter la vie, eh bien c'est le début de la fin. Donc oui au modèle du Kenyan, non au modèle Wall-E.
Mais bon, justement, Emmanuel, c'est ça qui est formidable, c'est que la complexité nous oblige plus que jamais à nous poser plein de questions. Et c'est ce que je vois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et je pense que justement, la complexité est un vecteur justement de nouveaux questionnements et certainement d'emmener l'être humain vers autre chose.
Alors, d'autres questionnements à suivre dans un instant, c'est passionnant, avec Pierre Calmar, Agnès Salazar, Emmanuel Lechypre, Hubert Blanquefort et puis Raphaël Dandréis qui organise ce jeudi les rencontres de l'UDECAM. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Est-ce que c'est compliqué de faire simple, cette complexité qui gagne tous les process de décision, qui gagne les entreprises, de plus en plus de data, de plus en plus de métiers. Voilà, tout ça évolue. Cap peut-être vers la simplicité, mais pas le simplice, hein. C'est ce qu'on disait il y a un instant. Je cite Steve Jobs, vous avez cité Spinoza, très bien, moi je cite l'un des penseurs du 20e siècle, un des faiseurs du 20e siècle, qui nous dit faire simple est plus difficile que faire compliqué. C'est quoi les mesures les plus importantes à prendre à vos yeux, Emmanuel Lechypre, justement pour fluidifier les échanges, pour amener un petit peu de simplicité?
Ah, moi je crois qu'il y a un vrai enjeu qui est, encore une fois, on l'a vu globalement, moi ce que je retiens de nos premiers échanges, c'est quand même qu'on peut faire confiance à l'homme, grosso modo, pour inventer ce nouveau monde. Sauf qu'il faut que vous ne soyez pas complètement entravé dans votre liberté. Et on est aussi dans un monde qui a besoin de plus de liberté. Et pour moi, le noyau dur de la résistance en matière de simplification, c'est incontestablement les fabricants de normes, de réglementations, de fiscalité. Hein, les plus gros bastions aujourd'hui de la complexification, c'est quand même la haute administration et cette production qui est sa raison d'être. Hein,
en serpent même temps. De mer, on nous promet régulièrement la simplification. Non, vous aurez demain sauf Gérald Darmanin.
Sauf que parce que il y a des normes de sécurité de plus en plus. Mmh. Prenez des secteurs comme la chimie, par exemple, qui est confronté à des normes sécuritaires avec une inflation stupéfiante. L'agriculture, etc. Donc, il y a un moment où, quand même, cette complexité, elle paralyse considérablement l'activité. Il y a un moment où c'est la liberté d'entreprendre qui est en cause, à un moment où on a besoin d'agilité. Donc, oui, là, il y a un véritable défi qui est le défi de la simplification réglementaire, administrative, fiscale. Simplification qu'on nous promet, mais qui dans les faits n'est pas là. C'est-à-dire que chaque année, vous accumulez toujours plus de règles
et ça
à respecter
ça sédimente,
que les années
précédentes.
Et là, ça devient vraiment compliqué.
Complexité, simplicité. Raphaël Dandréis, vous organisez donc ces rencontres de l'UDECAM, l'Union des agences médias, ce jeudi, salle Playel à Paris. Y a-t-il vraiment une religion? Est-ce qu'il y a vraiment une seule recette magique? Il n'y a pas un mix à trouver entre les deux quand même?
Entre simplicité et complexité. Alors on a, on va continuer dans les intellectuels qu'on convoque ici ce soir, mais on a un professeur au Collège de France qui viendra demain, Alain Berthos, qui est neurobiologiste et qui en fait lui a inventé un concept qui s'appelle la simplexité.
Ah,
et il dit au fond, il dit au fond quelque chose de, en tout cas on en comprend très bien les enjeux, je suis pas sûr qu'on en comprenne tous les tenants scientifiques, mais qui dit en fait notre cerveau, il est sans arrêt assailli par des millions d'informations, notamment parce qu'on est, on le disait, un animal et qu'on doit se protéger et donc on doit sans arrêt être en veille. On a énormément de capteurs et pourtant on est capable de focaliser son attention sur quelque chose qu'on veut faire. Je sais pas quoi, on prend son stylo, on écrit, on prend sa fourchette, on fait quelque chose et on passe à l'action sur quelque chose qu'on a priorisé. Et je pense que ce qu'on va essayer de démontrer demain, c'est qu'au fond, il faut, si on poursuit plein d'objectifs, c'est sûr qu'on s'ébroue dans une espèce d'infinie possibilité et on n'a pas d'impact sur rien. Donc nous, ce qu'on redit, c'est qu'une agence média, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte une certaine forme de contradiction mais positive à un annonceur qui lui est assailli de contradictions, de problématiques différentes, de cibles, d'objectifs, et on lui dit voilà, nous il nous semble que le truc le plus important c'est ça, et en fonction de ça on va orchestrer quelque chose, comme on veut toucher plutôt les femmes à tel moment de leur vie, dans tel contexte pour l'électricité, on va aller faire un partenariat avec Au Féminin qui a la plus belle base de données de femmes et qui comprend le mieux les femmes. Et ça, il y a 10 possibilités. Ben, à un moment donné, on va choisir Au Féminin plus je ne sais quel, plus BFM, parce que les femmes sont des décideurs aussi. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et ce choix-là, et donc ce renoncement-là, puisqu'il y a plein d'autres possibilités, bon, voilà, choisir c'est renoncer, et ben évidemment c'est le rôle à un moment donné d'un tiers qui éclaire le jugement d'un annonceur qui in fine est seul face à sa décision.
Vous avez pas peur que vos métiers disparaissent parce que, je sais pas, parce que l'influence maintenant elle viendra des consommateurs qui sauront faire entendre, mais... qui inventeront des slogans, qui feront finalement comme ils sont devenus les fabricants de leur propre. Je dis, hein, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Bah, est-ce que demain c'est pas eux qui feront les canaux d'influence, quoi?
Alors ils le font déjà beaucoup. Hein. Les influenceurs aujourd'hui sont des médias quasi comme les autres, si je puis dire. Alors avec des hauts et des bas, mais aujourd'hui nous notre hypothèse, alors est-ce qu'on disparaîtra? Jamais, je ne peux pas être sûr. Aucun de nous peut être sûr. En revanche, ce qui est certain, c'est que plus c'est compliqué, plus vous avez besoin d'un décodeur. Et le rôle des agences, c'est de décoder ce qui se passe sur le terrain, d'établir une stratégie en collaboration, et ce terme est très important, avec des gens qui ont une connaissance très fine d'une cible. On va parler, puisqu'Agnès est là, des femmes, par exemple, avec Au Féminin, mais aussi d'un annonceur qui vous dit, écoutez, moi, je connais très, très bien mon sujet, et voilà mon objectif principal, ou en tout cas, aidez-moi à choisir en ces deux, trois-là. Et donc, moi, il me semble que notre meilleur allié, mais c'est pas fait exprès, c'est la complexité. Donc après, soit on la domine et on a un rôle, soit on est noyé, on n'a pas de rôle.
Disparaît. Oui, Agnès Salazar, Au Féminin.
On parle beaucoup de complexité et de monde très très complexe autour de nous. La complexité, elle est aussi à l'intérieur des entreprises et c'est la transformation des entreprises. L'industrie des médias et de la communication, elle est challengée comme beaucoup d'industries. Elle doit se transformer et dans la transformation, il y a une complexité évidemment énorme. Donc la simplicité, il faut aussi aller la chercher là et faire face à cette complexité, ça veut dire aborder avec l'ensemble des collaborateurs les enjeux avec simplicité. On a mené un chantier vraiment intéressant de co-construction avec l'ensemble de nos équipes et nos filiales à l'étranger, dans lesquelles on a dit, en fait, les enjeux sont, on voit bien quels sont les enjeux, mais comment changer notre façon de travailler, comment changer nos relations les uns avec les autres pour réussir à faire face à ces enjeux. Notre métier se transforme, le marché se transforme, est complexe. Comment faire pour, avec simplicité, aborder l'ensemble de ces sujets-là?
Alors, un mot pour terminer, Hubert Blanquefort et Pierre Calmar. Hubert Blanquefort, le club des annonceurs.
Alors, tout ça, finalement, fait partie du quotidien. Et c'est vrai que nous, au club, quand on en discute avec les 150 membres, au fond, on a un certain nombre de niveaux de conclusions. On a une étude qui sort dans pas longtemps autour des paradoxes, et on parlait de paradoxes tout à l'heure. On parlait de finalement, est-ce que j'ai envie d'être ciblé, est-ce que j'ai pas envie d'être ciblé. En fait, la réponse, elle est dans les deux sens. Oui, parce que ça m'apporte un service. Oui, parce que je suis content qu'on m'apporte quelque chose. Et en même temps, j'ai cette espèce de réaction. Donc aujourd'hui, quand on oppose souvent médias de masse et puis ciblage, c'est ridicule. Au fond, ce qui compte, c'est à un moment, c'est que l'expérience, elle soit forte. Deuxième paradoxe, c'est on veut du sens, que les marques donnent du sens. Très bien, mais en même temps, on a besoin de vendre. Comment est-ce qu'on équilibre ces deux dimensions-là qui sont extrêmement fortes et qui sont nécessaires pour donner à la fois du sens et en même temps du produit? Parce que si j'ai pas de produit, j'achète pas. Et puis, voilà. Et puis, le sens, c'est aussi au sein de l'entreprise, c'est comment est-ce que je fais pour que les employés, les salariés, soient complètement et adhèrent à cette stratégie.
Bien sûr, adhèrent, ouais.
Et moi, pour terminer, je dirais que on est très très loin de disparaître parce que plus que jamais, on a besoin de communication. On parlait de la notion de transparence. Le consommateur, il veut savoir ce qu'il mange, il veut savoir ce qu'il achète, comment ça a été produit.
Non, mais ça, c'est donc les marques, c'est pas de la communication.
Ah, pour moi, c'est totalement de la communication. C'est même, je vais vous dire quelque chose. La publicité qu'on la faisait effectivement au XXe siècle, elle est morte. En revanche, la vraie publicité, la communication des marques, ce qu'elles ont à dire, la raison pour laquelle elles existent, n'a jamais été aussi importante pour le consommateur. Et c'est pour ça que je pense qu'on est encore là pour longtemps.
Là, juste un mot pour terminer. La pub digitale, dans l'actualité, c'est Bruno Le Maire qui va signer Google et Facebook pour pratiques commerciales abusives. Il exige une sanction de 2 millions d'euros. Ils sont accusés par le ministre de profiter de leur position de force sur Internet pour écraser la concurrence, à savoir les start-up françaises qui se voient imposer donc toutes sortes de conditions, des tarifs pour voir leurs applications référencées. Les deux, Apple et Google, ce sont 90% de la pub mobile en France. C'est une bonne décision qu'a pris le ministre, qu'a pris Bercy, Raphaël Dandréis?
Alors, je ne sais pas si c'est une bonne décision qu'a pris Bercy. Nous, la seule chose qui nous préoccupe, c'est une sorte de développement durable de la communication, et notamment de la communication numérique, puisque c'est celle qui se développe. Et donc, nous, ce qu'on défend, notamment dans l'intérêt des annonceurs, c'est une diversité qui fait qu'on a du choix. Donc, tout ce qui, je dirais, pose la question d'une trop forte polarisation et qui biaiserait éventuellement, je connais pas le dossier en détail, l'accès voilà, à une vraie diversité de nouveaux annonceurs, de nouveaux médias, effectivement, nous, va pas dans le sens de ce qu'on veut. Après, voilà, c'est moi, je suis pas législateur et je suis pas juriste.
Les GAFA accusés de ne pas être réglo sur le marché de la publicité en ligne en cassant les prix, notamment profitant de leur position dominante sur le search, hein, on en parlait avec la directrice, la présidente de l'autorité de la concurrence ici même lundi soir. Il y a des pratiques contestables, il y a des abus de position dominante de la part de ces Facebook, Google, bientôt Amazon peut-être.
Il y a une domination de fait, puisque c'est près de 80% pour Google et Facebook de l'investissement digital. Est-ce qu'il y a abus de position dominante? Moi, je sais pas. J'ai vu, comme vous, le rapport de l'autorité de concurrence la semaine dernière.
Le marché est déséquilibré ou pas?
Je pense qu'on est à un moment où c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Mais j'ai presque envie de dire, dans l'intérêt même des plateformes. Parce que si vous, à un moment donné, s'il n'y a pas de vitalité suffisante d'un marché, de toute façon, ça finit par être un sujet, y compris pour celui qui domine. Donc nous, notre raison d'être, c'est que les marques aient un choix suffisamment grand pour pouvoir avoir les points de contact les plus intelligents, les plus pertinents avec le consommateur. Donc nous, on a besoin structurellement de diversité, avec ce que ça peut avoir d'un peu compliqué, parce que c'est plus compliqué la diversité que le monolithisme. Et effectivement, quand il y a complexité, il y a besoin de gens qui vous trient tout ça. C'est le rôle des agences médias, CQFD.
CQFD, les agences médias qui donnent rendez-vous donc à toute la profession ce jeudi matin, salle Pleyel à Paris, les rencontres de l'UDECAM que préside Raphaël Dandréis, un dirigeant d'Avas. Merci à vous Raphaël Dandréis. Hubert Blanquefort, président du Club des Annonceurs, c'est le directeur digital et innovation d'EDF. Agnès Alazard, directrice générale de auféminin.com. Et Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Pierre Calmar, le président d'Aid Prospect, qui est l'agence digitale du groupe de communication et de médias Dentsu Aegis Network. On revient vite avec les décodeurs de l'écho. Tiens, ce jeudi soir, on parlera de la Russie, l'élection russe qui se déroule dimanche.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.